Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce colloque, à ce symposium. Alors avec mon exposé, on va plutôt se situer au niveau d'une agence bilatérale, à l'exemple de la Suisse, puisque c'est effectivement le thème de l'ouvrage que j'ai publié cette année. Il me semblait assez intéressant de voir en fait comment une coopération bilatérale s'adaptait aux discussions que nous avons pu avoir ce matin et comment elle essayait de travailler aussi en relation avec les débats internationaux qui ont cours actuellement. Donc là, on avance un peu dans l'histoire et puis mon propos sera vraiment un propos extrêmement contemporain. Le sous-titre de mon ouvrage, qui a été refusé par l'éditeur, j'ai pu l'imposer comme sous-titre, c'est précisément de la coopération au développement global, et ça fait écho au thème de ce symposium, où, de mon point de vue, il y a une certaine confusion dans le public non averti, ce qui n'est certainement pas votre cas, mais une confusion entre ce qu'on appelle la coopération au développement, coopération technique et puis la dimension plus importante du développement global. Donc le propos de cet ouvrage et les propos de cet exposé sera résumé en trois points. Tout d'abord, toute la question de l'aide publique au développement et de la Suisse et au niveau des pays donateurs, des pays du cadre, une réflexion sur la quantité et la qualité de cette aide. Le deuxième point de mon exposé aura trait au financement du développement. Quel financement, quel type de financement pour quel type de développement? Et là, je reprendrai un peu les éléments essentiels de manière critique de la conférence de Monterrey qui s'était tenue en 2002. Et puis, le dernier point, qui est le point qui est porté à bras-le-corps par le comité d'aide au développement de l'OCDE, qui est cette notion de cohérence des politiques publiques. Alors, première question à laquelle je vais tenter de répondre, en quoi, depuis les années 90, la politique de coopération et développement est devenue plus complexe et pourquoi les ressources financières pour mener à bien ces activités sont mises sous forte pression? Donc, c'est aussi amusant de voir que mon point de rupture que j'ai pris pour cet exposé n'est pas les années 80, mais les années 90 pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'effondrement évidemment du bloc soviétique. Il faut quand même rappeler ici que toute la coopération internationale au développement s'est clairement constituée sur ce conflit Est-Ouest. Donc à partir du moment où le conflit Est-Ouest changeait de nature, bien évidemment les agences de coopération, c'est pas forcément le cas de la Suisse puisque la Suisse en pays théoriquement neutre, était peu impliquée évidemment dans cette, disons qu'a peu utilisé sa coopération au développement dans ce conflit Est-Ouest, mais les États ont dû redéfinir leur coopération au développement, les objectifs de cette coopération au développement au tournant des années 90, et ça s'est fait aussi par cette approche lancée par Inge Kohl, qui est justement la gestion des biens publics globaux, que sont la sécurité et les questions d'environnement notamment. La Suisse, évidemment, a également redéfini sa politique extérieure dans les années 90 en définissant cinq objectifs et qui font partie en fait maintenant même, qui sont inscrits dans la Constitution fédérale. Donc la coopération au développement est maintenant mieux articulée aux objectifs de politique extérieure de la Suisse que sont la coexistence pacifique entre les peuples. On a parlé dans les exposés de tout à l'heure de ce lien étroit entre paix, guerre et développement. Donc là, il y a évidemment un nexus qu'il faut retravailler et repenser, étant donné qu'une partie des conflits, on a parlé des conflits interétatiques, mais il y a aussi de nombreux conflits intra-étatiques dans lesquels les coopérations au développement étaient précisément en train de conduire un certain nombre de projets. Donc là, il y a un nexus qu'il faut réanalyser et redévelopper. Ensuite de ça, il y a toute cette question de promotion des droits de l'homme, de démocratie, de good governance, de lutte contre la corruption, qui est un des objectifs énoncés et que la coopération au développement au niveau suisse mais au niveau international aussi a pris en compte, peut-être au détriment de d'autres thèmes majeurs de la coopération au développement. Je pense notamment au thème de l'agriculture. Pendant une dizaine d'années, on n'a plus du tout ou beaucoup moins pris des thèmes aussi essentiels que l'agriculture comme un des thèmes centraux de la coopération au développement. Et on a pu voir que cette année, il y a un retour de balancier puisque le thème de l'agriculture, alors il faut voir comment, mais a été remis à l'ordre du jour par le rapport mondial par le rapport de la Banque mondiale. Donc là aussi, je n'ai pas encore lu le rapport dans sa complexité et sa totalité, mais au moins ce thème de l'agriculture qui était complètement évincé des problématiques de coopération au développement a été remis à l'ordre du jour. Il y a évidemment la question de la préservation des ressources naturelles, on en a largement parlé, j'y reviendrai pas. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le thème classique de la coopération au développement, bien évidemment, qui est l'appui aux populations dans le besoin et la lutte contre la pauvreté. Donc voilà, quatre des objectifs de politique extérieure de la Suisse. Et le cinquième, et ça c'est assez savoureux, c'est évidemment la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger. Donc sur le même plan, on a ces cinq objectifs et on voit bien les contradictions internes qu'on peut avoir, et on verra comment, en fait, dans la pratique, la coopération suisse tente de gérer les contradictions internes. Donc, ces cinq objectifs sont au même niveau, mais l'objectif suprême, bien évidemment, est le dernier objectif. Alors, comment est-ce que ça s'est traduit dans la pratique de la coopération suisse? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement, vous dire, comme Michel Heger l'a dit en introduction, que la coopération est en main de deux offices qui sont d'une part la direction du développement et de la coopération qui dépend du département fédéral des affaires étrangères et le secrétariat d'État à l'économie a une section qui s'occupe de la coopération économique au développement. Dans les années 90, un nouveau champ s'est ouvert, évidemment c'est tout ce qui est la coopération aux pays de l'Est. Et au fil des années, évidemment, l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement, a eu des crédits de tirer sur le budget d'aide publique au développement pour gérer les problèmes environnementaux. De même, la division politique CAD du département fédéral des affaires étrangères a aussi pris un bout du gâteau pour gérer tout ce qui est les programmes de gestion de conflits civils et de promotion des droits de l'homme. Alors, dans les chiffres et dans la pratique, ben, qu'est-ce qu'on voit? Que de 2002 à 2005, effectivement, les crédits liés à la coopération au développement de la Suisse sont en augmentation, mais que finalement, l'aide traditionnelle, elle, les crédits d'aide l'aide traditionnelle, n'ont pas augmenté. Et on se rend compte, là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais que la Suisse en particulier, mais tous les États en général, ont tendance plutôt à gonfler les budgets d'aide publique au développement en y mettant des choses qui étaient dépensées par ailleurs. Donc on gonfle comme ça cet agrégat d'aide publique au développement. C'est vrai pour la Suisse qui, dès 2004, a introduit en fait les dépenses pour les requérants d'asile pendant leur première année de leur séjour. C'est donc la zone grisée pour 2004. Et en 2005, elle s'est alignée à ce qui se passait au niveau international en y ajoutant aussi les remises de dettes. Même réalité au niveau international, puisque ça, ce sont les chiffres des aides cumulées des bailleurs de fonds des pays membres du CAD, du Comité d'aide au développement, où on voit finalement que la partie lila mauve est restée assez standard, mais que finalement, ce sont les programmes de développement en Afghanistan et puis principalement les problèmes de dette, les remises de dette qui ont été comptabilisées au titre de l'aide publique. Alors quand on se rappelle quand même les engagements qui ont été pris lors du sommet du millénaire à Rio d'augmenter l'aide publique au développement, il faudra voir, un, si les États jusqu'en 2015 tiennent leurs promesses, mais pour l'instant il y a plutôt eu des efforts de gonfler, d'afficher une progression, mais en finalement... en gonflant les chiffres. Avant de passer au point sur le financement du développement, j'aimerais aussi répondre à Florian Rocha et approuver son propos. Je pense que la coopération au développement actuellement s'est complètement dépolitisée. Alors ça, c'est absolument clair. Et je prendrai deux exemples pour appuyer mon propos. C'est effectivement ces objectifs du millénaire pour le développement ou du développement pour le millénaire, où là, on ne peut pas contester ces objectifs, bien évidemment, puisque c'est des objectifs pour tendre vers les besoins essentiels. Mais plusieurs remarques. La première, c'est que les objectifs tels qu'ils ont été définis vont beaucoup moins loin que les objectifs qui ont été définis dans les conférences du cycle des Nations Unies des années 90 avant ça. Donc ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième remarque, c'est finalement, si on n'arrive pas à les obtenir, comment redynamiser ou convaincre de l'utilité de la coopération au développement. Il risque d'y avoir un effet boomerang, peut-être non calculé, mais qui risque d'être difficile à gérer pour la coopération au développement. Et puis, mon troisième point, et ça concerne aussi la déclaration de Paris, on arrive maintenant à une approche tellement technocratique de la coopération au développement, où on se fixe des objectifs, des indicateurs, où les agences bilatérales doivent remplir des formulaires pas possibles, où les ministères de la coopération dans les pays en développement doivent remplir ces formulaires, où les agences internationales qui ont posé ces exigences absorbent un staff, enfin du personnel de manière incroyable. Donc moi, je sens vraiment qu'il y a une technocratisation de la coopération au développement et une dépolitisation, et ça pose de réels problèmes à mon sens. J'en arrive au deuxième point de mon propos, quel financement pour quel développement et quelles sont les principales avancées de la conférence de Monterrey. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, quand on parlait coopération au développement, relations nord-sud, on pensait pratiquement quel public au développement. Le sommet de Monterrey a permis de voir les choses de manière un petit peu différente. Et il y a aussi maintenant une prise de conscience d'une certaine relativité de l'impact de l'aide publique au développement. Quand les remittances, donc les transferts des migrants dans les pays en développement, ont été comptabilisés de manière un petit peu plus transparente, et on se rend compte finalement qu'en 2005, l'aide publique au développement des pays du cadre se montait à 107 milliards de dollars, alors que les reports d'argent des migrants qui ont réussi à être comptabilisés, parce que là on reste dans des chiffres qui sont extrêmement approximatifs, eux se montaient à 167 milliards de dollars. Alors évidemment, ça relativise quand même l'impact que peut avoir l'aide publique au développement. Quelles sont les deux principales avancées de la conférence de Monterrey? Alors, il y a d'une part six objets d'études que je vais détailler précédemment, où on a pu justement ouvrir le spectre des sources de financement possibles pour le développement. Et puis, il y a eu surtout cette prise de conscience que le financement du développement devait être un engagement entre les pays industrialisés qui avaient deux tâches principales. C'était d'une part augmenter leur aide publique au développement, mais d'autre part faire des efforts clairs d'ouverture des marchés, et puis les pays en développement auxquels on a demandé, ou c'est un consensus qui est apparu, qu'il fallait faire une réforme claire de leurs institutions politiques et notamment une réforme de la fiscalité. Alors, je détaillerai précisément ces questions de fiscalité tout à l'heure, mais j'aimerais rapidement brosser les principaux domaines d'action du consensus dans l'intérêt, puis voir où il y a des avancées possibles et puis où on est dans des situations de blocage. Donc, l'aide publique au développement, on en a assez parlé, j'y reviendrai pas. Les investissements directs étrangers et autres apports du secteur privé, c'est effectivement un des apports possibles pour le développement, mais là, de quel développement parle-t-on ? Et rappeler quand même que c'est la totalité ou la quasi-totalité des investissements directs étrangers sont focalisés sur une dizaine de pays seulement. Et encore, quand on fait une analyse un petit peu plus détaillée, on se rend compte que pour l'Inde, qui absorbe quand même une partie importante de ses investissements directs étrangers, il y a seulement 4 États qui en bénéficient. Donc là, il faut aussi faire une analyse très précise de où va cet argent et à quelle fin. Ensuite, l'allègement des dettes, effectivement, c'est un des problèmes majeurs. La discussion a eu cours avec les programmes que l'on sait. Et puis maintenant, on est un petit peu en bout de course des programmes qui ont été lancés. Je pense notamment à l'initiative PPPE et puis à l'initiative globale de désendettement. Voilà, on est à bout de course de ces programmes. Et puis le problème de la dette, bien évidemment, n'est pas résolu. Donc là, il faut évidemment relancer la question. Le commerce international, on le sait, le cycle de Doha a été lancé, mais le débat au niveau international est complètement bloqué. Il n'y aura pas de conférence ministérielle cette année. Il est clair que tant que l'administration Bush est au pouvoir, les choses ne vont absolument pas bouger. Ensuite de ça, on arrive à la question de la révision des systèmes monétaires, financiers et du commerce international. Là, on est sur toute cette question de l'architecture financière. Donc là aussi, le diagnostic a été fait. Les choses doivent évoluer dans ce secteur, mais évidemment, on est sur des questions de blocage politique où il faudra un certain temps pour que les choses avancent. Et puis, on en arrive à la question qui finalement laisse le plus de marge de manœuvre, qui est la mobilisation des ressources financières intérieures. Et je profite aussi de faire un petit coup de pub. L'annuaire suisse de politique de développement qui est paru au mois de novembre, là maintenant tout récemment, a précisément analysé les différentes possibilités de mobilisation des ressources financières au niveau interne. Et puis je vais prendre l'exemple d'un article, parce que évidemment je ne peux pas tout présenter, mais je vais quand même essayer de détailler la thèse dans des articles.
Déjà un gros quart d'heure. Hein.
D'accord, je suis presque à la fin. Donc. Je vais me permettre de vous lire cette citation. Donc, si j'adhère assez à cette approche, c'est pour ça que je me permets de le faire. Si l'apport massif de fonds est une exigence incontournable pour répondre à certaines problématiques, pour d'autres, elle n'en est qu'un des aspects. Ainsi, l'efficacité d'une politique et le bon fonctionnement des institutions ne dépendent pas uniquement de facteurs financiers. Au contraire, un afflux trop rapide d'argent peut même comporter des risques, notamment celui d'affaiblir les efforts d'un État pour mobiliser ses propres ressources. La vraie question est de savoir comment créer les incitations politiques et institutionnelles qui permettent d'allouer efficacement les ressources complémentaires nécessaires au développement. Et là, cette phrase a été prononcée par Micheline Cagniret lors d'une leçon inaugurale à l'IED en octobre 2005. Mais elle touche évidemment toute la question du conflit potentiel qui peut y avoir entre l'aide publique au développement telle qu'elle est pratiquée et puis la capacité aux États de se réformer. Donc là, on est sur un des points centraux sur lesquels les coopérations au développement les agences bilatérales et multilatérales devront se positionner dans les années à venir. Alors, comment analyser cette situation ? Dans notre annuaire, on a un collaborateur de la DDC qui a eu le courage de rédiger un article extrêmement pertinent qui n'est pas sans remettre en cause, pas le bien fondé de l'aide publique au développement, mais les impacts que celle-ci peut avoir dans les pays en développement. Et donc il s'agit de Pascal Ress, mais qui a évidemment écrit cet article en son nom propre. Ceci dit, je pense que ça reflète quand même assez fondamentalement des questions qui se posent et qui ont un débat qui a le courage d'être lancé à l'intérieur même des agences de coopération. Donc la question est de savoir en quoi et comment l'aide publique au développement peut briser ce qu'il appelle le cercle vertueux du lien entre débat démocratique, fiscalité et prestations publiques. À ses yeux, évidemment, un État a le devoir de répondre à certains besoins fondamentaux d'une population et d'un État en termes d'éducation, de santé, d'infrastructure. À partir du moment où ce gouvernement est démocratiquement élu et qu'il est financé par sa population, c'est à cette population qu'il a des comptes à rendre. Quand tout d'un coup, et c'est le cas quand même d'un certain nombre de pays, l'aide publique au développement constitue plus du 50% du budget d'un État, à qui est-ce que le gouvernement va rendre des comptes en priorité, surtout dans le système de conditionnalité qu'on connaît actuellement? Bien évidemment, c'est aux bailleurs de fonds. Donc, c'est une question fondamentale de savoir comment retrouver des équilibres. La question n'est pas de stopper l'aide publique au développement, mais que l'aide au développement ne brise pas justement ce cercle vertueux entre fiscalité, redevabilité et puis cohésion sociale. J'en arrive à mon dernier point précisément, où une meilleure mobilisation des ressources nationales peut passer ou doit passer par une amélioration des systèmes fiscaux, mais il faut rappeler que la Suisse gère un tiers de la fortune mondiale placée à l'étranger et qu'elle n'accorde pas d'entraide judiciaire pour l'évasion fiscale. Donc ce point me permet d'arriver à mon dernier point, qui est le point de la cohérence des politiques publiques, qui est donc une dimension qui est essentielle dans l'approche, disons, de ce que j'ai appelé le développement global, où la coopération au développement est une chose, mais si on ne place pas des conditions cadres à un autre niveau, bien évidemment, ça ne sert à rien. Donc, en deux mots, cette notion de cohérence des politiques publiques, ce n'est pas une notion qui tombe du ciel, ce n'est pas un objectif théorique, c'est un objectif théorique vers lequel on doit tendre, mais c'est surtout un objectif qui est encadré par le comité d'aide au développement, qui a demandé à ses États, aux États membres du CAD, de tendre vers cet objectif et qui fait des analyses régulières des politiques, autres politiques de coopération et autres ayant une incidence sur les pays en développement, pour s'assurer que les États ne font pas que de la coopération au développement, mais qu'ils arrivent à mettre sur pied cette approche plus globale. Alors la Suisse et les États ont reconnu le bien fondé de cette approche de cohérence des politiques publiques en 1992 en signant une déclaration à Paris. La Suisse a rapidement traduit cet objectif dans un texte qu'on appelle les lignes directrices Nord-Sud, qui a été adopté par le Conseil fédéral en 1994. Et depuis lors, il ne s'est absolument plus rien passé, alors même que d'autres États ont été beaucoup plus loin dans la mise en place et l'organisation institutionnelle de leur administration ou de leur parlement pour qu'il y ait des espaces où on débat des questions qui posent problème, où on met en discussion les conflits d'intérêts inhérents qu'il y a chez les pays donateurs, évidemment, des objectifs de développement et, comme on l'a vu pour le cas de la Suisse, la défense des intérêts nationaux, qui est évidemment l'objectif central de tous les pays industrialisés. Donc il faut créer des espaces de dialogue pour tendre et débattre de ces conflits d'intérêts afin de surmonter. Je crois que c'est d'abord la question de débat qui est essentielle à cette notion de cohérence des politiques publiques. Donc, en conclusion, il faut évidemment maintenir les questions de coopération, d'aide au développement, repolitiser peut-être le débat, arrêter une approche beaucoup trop technocratique, avoir une réflexion extrêmement approfondie sur le financement du développement, et puis évidemment s'approprier cette approche de la cohérence des politiques publiques pour pouvoir justement asseoir une politique de développement global. Je vous remercie.